Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu agisse. Pour cela, nous avons besoin de sa parole qui est esprit et vie. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul enseigne beaucoup de choses sur ce que nous sommes en Christ. Et à un moment donné, il pose une question. C'est Dieu qui la pose. Nous allons la lire dans Romains au chapitre 8. Dieu aime poser des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois où Dieu pose des questions dans la Bible. C'est quelque chose de presque d'impressionnant, la quantité de questions que Dieu pose. Il pose des questions dans un seul but, c'est que nous y répondions. Quand Dieu pose une question, nous devons avoir la politesse de répondre. Pas forcément à haute voix, peut-être ce soir dans votre chambre, dans votre maison, de vous asseoir et de dire « Tiens, il faut que je réponde à cette question. Seigneur, elle m'a été posée, c'est peut-être pas M. Gault qui me la pose, si c'est toi qui me la poses, je veux y répondre. » Romains chapitre 8, dont il y a tout un enseignement sur la faveur de Dieu. Vous voyez quand il est dit au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Vous voyez, rien que ces deux versets, je veux dire, rien que ces deux versets en disent long. Et au verset 31, il pose la question, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Oui, c'est une question que Dieu pose. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que nous disons à l'égard de toutes ces promesses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Qu'est-ce que vous répondez à ces trois questions? Qu'est-ce que vous dites à l'égard de cette affaire? Est-ce que vous croyez que toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que vraiment vous le croyez? Est-ce que vous croyez que nous sommes destinés à faire des progrès et à ressembler de plus en plus au Seigneur? Est-ce que vous croyez que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors il dit, oui, je vous ai donné mon Fils. Je vous ai donné mon Fils au calvaire, je vous ai tout donné. Alors comprenez bien que si je vous ai tout donné, à plus forte raison, je vous donnerai toutes choses avec vous. Alors, bien sûr que nous souvent dans les églises, nous poussons les gens à donner. Vous êtes à se donner. Est-ce que c'est pas vrai? Nous accentuons souvent, il y a des églises, ça dépend des dénominations. Quand vous lisez les confessions de foi des différentes dénominations, vous voyez qu'il y a des églises qui articulent davantage sur la sainteté, une autre va accentuer sur les œuvres, comme par exemple l'armée du salut, une autre dénomination va accentuer sur le baptême du Saint-Esprit, comme la nôtre. Chaque église a son identité, chaque église a sa petite flèche pour insister dans un point de doctrine. Et je crois que souvent, nous, dans les assemblées, nous avons exhorté les gens à donner. Et c'est vrai qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a beaucoup de joie quand on se donne, quand on donne ce que l'on a reçu, les talents que l'on a reçus de la part du Seigneur, etc. Mais mes frères et sœurs, il y a un contexte dans l'affaire de donner. Par exemple, on va lire un verset dans Luc, dans le Sermon sur la montagne. Vous savez que le Sermon sur la montagne regroupe tout le comportement du chrétien. Alors on va prendre ce verset, Luc 6, 38. Voilà, c'est le verset que nous pouvons utiliser, vous voyez, dans une dénomination où on veut faire des œuvres. Vous voyez, si on veut pousser des gens à faire des œuvres, la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte, la foi sans les œuvres, elle est inutile. Donc on peut accentuer, à juste titre, sur ce verset 38, par exemple, de Luc chapitre 6, « Donnez, et il vous sera donné. » C'est qui parle? C'est Jésus. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Et donc, on pourrait prendre plein de versets qui poussent les gens à se donner, car Dieu utilisera la mesure que nous utilisons pour nous récompenser. Et nous pourrions donc prendre plein de textes. Le contexte. Vous savez que ce qui détermine la compréhension d'un texte, c'est le contexte. Vous connaissez le début de ce chapitre. Eh bien, on le lit le début. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur au début? Et ça commence où ça? Luc 6, verset 20. C'est toujours important de comprendre le contexte. sinon on ne comprendra pas ce que Dieu veut dire. Le contexte, ça commence comment? Vous le connaissez. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » Dans le contexte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est humble, qui réalise qu'il a toujours besoin de Jésus-Christ. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre cœur? Quoi que ce soit que vous ayez reçu, je ne sais pas ce que vous avez reçu, les dons, les talents, les bénédictions matérielles et autres, peut-être que Dieu vous a comblé. Est-ce que Dieu peut combler quelqu'un? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu peut vous combler de toute grâce? Est-ce que c'est écrit? Oui, je vous souviens d'une dame qui est venue il y a quelques années, ça m'a fait pitié vraiment. Elle est venue me voir, elle était toute troublée. Cette femme avait réussi dans la vie, son mari avait une grosse Mercedes, ils avaient une grosse maison, ils avaient une belle piscine, enfin tout ce que les gens veulent avoir. Et elle a été dans une église, et vous savez ce qu'il lui a dit le pasteur? Tout ça c'est diabolique. Si t'as réussi, c'est diabolique. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'ai dit, je crois que c'est Dieu qui bénit. Vous avez volé pour avoir la Mercedes? Vous avez volé pour... Non, on a travaillé, on a beaucoup travaillé avec vous, Marie. Eh bien, que Dieu soit béni. C'est écrit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Mais il y a un cœur qui est à l'écoute. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Il y a, avant de donner, ce qui est une grande bénédiction, peut-être que tout à l'heure, après la réunion, vous allez donner un peu de joie à quelqu'un, un peu de paix. Est-ce que c'est vrai? Ben oui. Ah, ça m'a fait du bien, j'ai discuté avec ma sœur, oh, elle m'a fait du bien. Nous ne nous rendons pas compte, le bienfait de la communion fraternelle, après une réunion, combien nous avons besoin, les uns des autres. Il y a une loi, c'est d'abord de recevoir. Dieu donne. Mais avant de donner, il faut recevoir. Et le sermon sur la montagne commence avec cette grande bénédiction. Heureux les pauvres. Alors on peut être pauvre et riche, mais oui, on peut être riche matériellement et rester pauvre spirituellement, c'est-à-dire je dépendrai toute ma vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans cet état de cœur? Je dépendrai toute ma vie de Jésus-Christ. Je n'ai que toi dans le ciel. Sur la terre, je n'ai que toi. Il y a un principe, il y a un autre verset dans le royaume de Dieu qui était ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Vous voyez bien lorsque vous lisez la parole de Dieu que Dieu donne, qu'il aime donner. Il prend soin de nos besoins, il prend soin même de nos désirs. Je dis à la réunion d'évangélisation, nous avons partagé plusieurs textes comme celui-ci. Et je pense que c'est important que nous le réalisions, parce que nous avons un Dieu qui donne. Regardez avec moi dans le psaume 20. Dans le psaume 20, ça va loin cette affaire de donner. Dieu aime donner. Mais il y a des conditions, parce que Dieu ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il sait très bien ce qu'il peut vous donner. Est-ce que vous le croyez ça, que Dieu sait ce qu'il peut donner à quelqu'un? Par exemple, psaume 20, on pourrait dire n'importe quoi avec le verset 5. Psaume 20, verset 5. C'est quand même beau ce verset. Qu'est-ce que vous en pensez? Psaume 20, verset 5e, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ça vous plaît ça? Ça vous plaît pas? On le relit, qu'il te donne ce que ton cœur désire. David, dans le psaume qui suit, au verset 3, a expérimenté le fait de mettre Dieu en premier. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Est-ce que c'est pas beau ça? On voit bien que Dieu donne. Alors c'est vrai qu'il y a un principe, c'est dans le psaume. Par contre, il faut connaître les principes qui... Psaume 37, verset 4. Comment Dieu peut-il me donner certaines choses? Qu'est-ce que Dieu est capable de me donner? Eh bien, il est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. D'accord? Psaume 37, verset 4, il y a une condition. Fais de l'Éternel tes délices. Vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on fait de l'Éternel nos délices. Il faut voir le chrétien en dehors de l'église. Comment il se comporte chez lui, quand il est seul, avec des païens. Est-ce qu'il peut dire « oui, je fais de l'Éternel mes délices ». Eh bien, si je fais de l'Éternel mes délices, si vous avez la même version que moi, il est dit « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Gloire à Dieu. Dieu donne. Dieu aime donner. Dieu donne son esprit à ceux qui le lui demandent. C'est peut-être la chose que Dieu voudrait vous donner en ce moment, vous donner son esprit. Mais pour comprendre, il faut connaître. Il faut savoir ce que Dieu veut. J'aimerais que vous lisiez avec moi dans Éphésiens au chapitre 1er. Alors, je vous donne ces textes pour que vous les notiez, pour que vous puissiez faire vous-même vos cultes personnels. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, j'en ai parlé l'autre jour, mais je sens qu'il me faut revenir là-dessus. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, l'apôtre Paul est en prison, il indique quelle est notre position en Christ, ce que nous sommes lorsque nous lui appartenons. C'est extraordinaire d'être chrétien, de pouvoir appeler Dieu Père. C'est extraordinaire. Et il expose cette position que nous avons. Il y en a une flopée incroyable. Et puis au verset 15, il parle de cette foi qu'avaient les Éphésiens, de cet amour. Puis au verset 16, il prie. Vous savez que les pasteurs doivent prier, les chrétiens doivent prier, mais est-ce que vous savez que Dieu intercède aussi? Jésus intercède en notre faveur, pour que nous comprenions. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Oui, il rend des grâces pour cette église, parce que c'était une bonne église. Je fais mention de vous dans mes prières, vous voyez, les actions de grâce, mais la prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. Vous voyez, regardez bien mes frères et sœurs. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Regardez bien ces deux verbes. Dieu donne, mais il faut que nous sachions. Ça, Dieu donne, mais beaucoup de choses passent par la compréhension. Il faut entendre, il faut comprendre. Jésus dira, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. La suite nous prouve qu'ils n'avaient pas tout à fait compris. Ils avaient entendu, mais ils n'avaient pas compris. Dieu donne. Mes frères et sœurs, Dieu aime donner. Vous avez vu Jésus ce qu'il dit, mais demandez et vous recevrez. Quand vous lisez la parole, vous êtes presque frappé de voir la quantité de choses que Dieu peut donner à quelqu'un, jusqu'à même répondre à ses désirs. Mais il faut que nous sachions certaines choses. Il faut les savoir d'abord. Vous comprenez? Il faut les savoir. Regardez avec moi dans la première épître de Jean. Ce problème existait déjà à l'époque de l'Église primitive. Dans l'épître de Jean, on voit un Jean chapitre, il y a beaucoup, vous le lirez en entier, et vous arrêterez chaque fois que cette pensée revient. J'en ai pris quelques-uns pour vous prouver que c'est un problème qui est lancinant dans les églises. Les gens dépendent trop de leurs émotions, de leurs sentiments. Vous voyez, des gens qui disent, mais est-ce que je suis sauvé? J'ai accepté Jésus, je crois qu'il est mort à la croix, je prie. Je crois les prophéties, mais je sens pas que je suis sauvé. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à séparer les sentiments de la foi. Parce qu'ils ne croient pas toute la parole de Dieu. Ce problème existait déjà à l'église primitive. Regardez ce que Jean est obligé de dire aux chrétiens à qui il écrit. 1 Jean chapitre 3, verset 14. Vous lirez toute l'épître et vous la relirez dans cette pensée que je vous développe. Nous savons, il dit pas nous sentons, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez, pas vous sentez, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Au chapitre 5, il y a 5 fois, c'est écrit dans le chapitre 5, plus même. Regardez, 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et si nous sentons qu'il nous écoute, verset 15. Attendez. C'est pas, comment vous avez dans votre Bible? Si nous sentons, comment vous avez? Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Verset 18. Nous savons. Voyez? Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Afin que Dieu nous donne certaines choses, il faut que nous les sachions. Il faut que nous les ayons saisies. Quand l'ange Gabriel dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu, Marie doit savoir que Dieu peut lui donner un enfant sans l'intervention d'un homme. Est-ce que vous le croyez ça? Rien n'est impossible à Dieu. Le fait d'entendre une parole de Dieu va toucher vos cœurs et vous direz, mais il faut que je lise la parole de Dieu. Il faut que je sache. Il faut que j'entende Dieu me dire quelque chose. Regardez comment commence le livre des Proverbes. Ce livre extraordinaire, rempli de sagesse et de conseils, Comment commence ce livre ? Avec cinq verbes, franchement, ça vaut la peine de s'y arrêter. Beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu, sont en vrac, comme on dit, sont dans le doute et l'incrédulité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent pas. Regardez ce proverbe, on va lire juste versets 2, 3, 4 et 5. Proverbe chapitre 1, verset 2. Pour connaître, voyez, pour connaître la sagesse. Vous voulez connaître la sagesse ? Oui. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Pour donner, ça y est, maintenant, on commence à aller plus loin. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute. Ce livre entier de conseils, franchement, le livre de Proverbes, on peut le méditer toute notre vie, vous ne croyez pas ? Il y a 31 chapitres. Franchement, ces 31 chapitres sont d'une richesse qu'on peut s'arrêter tous les jours sur un verset et réaliser vraiment la profondeur de la sagesse de Dieu. Mais c'est clair, si on veut connaître, si on veut comprendre, si on veut recevoir et si on veut donner, il faut écouter. C'est important, mes frères et sœurs. Chez les Juifs, dans les synagogues, ils ont l'habitude de dire que le premier commandement, c'est pas « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Vous savez ce qu'ils disent dans les synagogues ? Alors on va le lire. Si vous me l'aviez dit, on ne l'aurait pas lu. C'est dans Deutéronome 5. Regardez. Mais c'est vrai en plus. C'est la vérité. Bien sûr, c'est une analogie, c'est une explication. Mais regardez Deutéronome chapitre 5. Vous connaissez le premier commandement. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », etc. Mais cela commence avec quel verbe ? On va juste lire le mot qui nous intéresse. Deutéronome chapitre 5, verset 1er. « Avant de donner les 10 commandements, qu'est-ce que Dieu dit ? Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute ! Écoute Israël !» On pourrait dire « Écoute Église !»« Écoute les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui !» Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Comment on va mettre quelque chose en pratique si on n'a pas écouté ? Comment on va comprendre le troisième commandement ? Quelqu'un peut me citer le troisième commandement ? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Combien de chrétiens se sont mis contre Dieu parce que chaque fois qu'il parle, le Seigneur m'a mis à cœur. Mes frères et sœurs, cette façon de parler déplaît à Dieu. Si vous avez à cœur de dire quelque chose à quelqu'un, mais vous le lui dites. Mais vous n'allez pas utiliser le nom du Seigneur en vain. Et combien de chrétiens se sont mis contre Dieu ? On a lu tout à l'heure, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Oui, mais si Dieu est contre nous, ça va mal se passer. Et il faut arrêter, moi je le sais. Ma propre mère, quand j'ai rencontré ma fiancée, m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Oui, ma mère, pourtant ma mère, je l'aimais, elle s'est convertie, elle avait fait des expériences, mais elle n'était pas née de nouveau. Elle m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur qu'Isabelle ne sera pas ta femme. J'ai dit, le Seigneur, il te l'a mis à toi à cœur, et pourquoi il ne me l'a pas dit à moi ? Non, mais on en rit, mais je veux dire, moi un jour j'ai vu un couple qui est arrivé, il m'appelle, monsieur, on peut vous voir, écoutez bien, c'est comique parce que ça s'est bien fini, mais c'est dramatique. Un couple, il vient me voir pour le jour du mariage. Ils sont venus comme s'ils étaient venus pour l'enterrement. Ils sont arrivés tous les deux. Bonjour, monsieur Gond, viens vous voir pour le mariage. C'est vous. Voilà. On voudrait fixer la date. Quand ? Oh, ben, quand vous voulez. Ah, d'accord. Vous avez envie de vous marier ? Oui, il faut qu'on se marie. Patati, patata. Au bout d'un moment, je voyais vraiment qu'il y a un truc qui n'allait pas. Mais vous vous aimez ? Oui, on s'aime. Alors moi, j'ai un peu plus, je dis, mais vous avez envie de vous embrasser ? Non. Il dit, mais pourquoi vous mariez ? On se marie parce qu'il y a une sœur dans l'église, ici ça s'est passé, qui nous a dit que Dieu lui avait montré qu'ils se marieraient ensemble. Et j'ai dit, vous allez vous marier parce qu'une sœur de l'église vous a dit que vous alliez vous marier avec ensemble ? Oui. Mais j'ai dit, mais vous êtes irresponsable. Et ils ont rompu, le jour même. Et je regrette, vous voyez, de ne pas avoir demandé qui était la sœur, quoi que je me doute. Mais franchement, je n'ai jamais osé demander. Mais j'aurais dû y aller et lui dire, ma sœur, vous prenez le nom du Seigneur en vain. Vous allez détruire de vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce commandement que je cite parmi tant d'autres, pour que vous compreniez bien que Dieu dit, écoute ! Écoute ce que je te dis ! Parce que si nous écoutons, nous saurons, et si nous saurons, nous le mettrons en pratique, et c'est de cette façon-là que Dieu bénit. il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup trop de chrétiens, ils sont dans la légèreté, ils sont là dans le mysticisme, vous voyez. C'est pour ça que Jean leur dit, mais non, vous deux, vous savez, si vous avez accepté Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous devez le savoir. Vous avez accepté Jésus comme sauveur? Vous sentez le salut? Moi, je ne le sens pas, le salut, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, je n'ai pas un truc qui me fait dresser les poils sur le bras. Je sais que je suis sauvé parce que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et que je lui ai demandé pardon. Et je sais que c'est vrai. Mes frères et sœurs, si nous voulons entrer dans cette grâce, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Écoute les lois et les ordonnances que tu entends aujourd'hui afin de les mettre en pratique. Je comprends pourquoi Jésus a dit souvent, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Il ne parlait pas des oreilles physiques, des yeux physiques. Il parlait des yeux spirituels. Il parlait des oreilles spirituelles. Qu'est-ce que j'entends ce soir? Est-ce que je comprends que si le Seigneur Dieu a donné Jésus-Christ sur la croix, a combien plus forte raison il me donnera toute chose. Mais peut-être il va falloir que j'insiste. Oui, fais de l'éternel tes délices. Qu'est-ce que c'est qui fait mes délices dans ma vie, au fait? Je peux être honnête, ne le dites pas haute voix, mais vous pouvez répondre. C'est quoi les délices en ce moment de ma vie? C'est quoi que j'aime le plus? On peut la poser la question quand même. Qu'est-ce que c'est que j'aime par-dessus tout? Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Mais si Dieu l'a dit, c'est extrêmement possible. Dimanche, j'ai parlé de cette prière importune que nous devrions avoir, cette prière passionnée, jusqu'à ce que nous ayons. Vous savez, ce matin, en priant pour cette réunion, je pensais à une femme qui a su être importune. Elle a su, mais ce n'était pas dans le bon sens. Vous savez, c'est justement un peu plus loin. Dans le livre des juges, il y a une femme qui a importuné un homme de Dieu. Elle a tellement importuné qu'il a fini par céder. Vous savez, il y a l'importunité spirituelle, mais il y a l'importunité diabolique aussi. Croyez-moi. Regardez dans le livre des juges, cette femme. Vous vous rappelez Delila? Cette femme, vous savez, quand on choisit des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, on ne fait pas un bon choix. Les jeunes, avant de vous marier, veillez à ne pas prendre quelqu'un qui est dans les ténèbres. Samson, tout juge qu'il était, tout fort qu'il était, s'est fait avoir par les femmes. Il avait un problème avec les femmes. Et ça l'a pas aidé, croyez-moi. Et quand vous lisez ce chapitre, je peux vous dire que ça vous encourage à ne pas faire n'importe quoi. Juges chapitre 16, verset 15. Mais c'est sûr que les Philistins lui avaient dit, elle était intéressée. Il y a des gens qui sont intéressés. Regardez ce qu'il lui avait dit au verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui, nous le lirons pour le dompter, et nous te donnerons à chacun 1100 cycles d'argent. » Ah, croyez-moi qu'elle a gagné au loto ce jour-là, je peux vous le dire. Alors regardez, verset 15, elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur s'est joué de moi, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner. Vous voyez combien le diable aussi sait y faire. L'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Samson? Il lui ouvrit tout son cœur. C'est dommage qu'il n'ait pas ouvert à Dieu son cœur. À qui vous l'ouvrez votre cœur? Est-ce que vraiment vous lui dites, mais Seigneur, moi je veux que tu me parles. Je viens dans ta maison, ce n'est pas par superstition, pour écouter une prédication de plus qui va peut-être faire du bien à mon cerveau. Non, Seigneur, parle-moi. Dimanche, tiens, tu m'as parlé des prières importunes, passionnées. Ce soir, tu me montres que je peux me faire piéger par les instances de l'ennemi. Alors que tu me montres en même temps que tu veux me donner. Seigneur, mais je veux entendre. Même si je vais bien, vous vous rappelez, j'ai parlé de l'église de Laodicée suite à cette question que cette femme m'avait posée, mais y a-t-il une église dans la Bible à qui Dieu ne fait pas de reproche? Oui, à l'église de Philadelphie, le Seigneur ne fait aucun reproche et pourtant il lui dit que celui qui a des oreilles entende. Et pourtant à cette église qui va très bien, il lui dit de veiller afin que personne ne prenne sa couronne. Parce qu'il y en a un, je vous assure, qui est fort pour nous voler. Vous le savez, ça, que l'ennemi, il est fort pour nous voler tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu est capable de nous donner. Ce soir, on peut terminer en priant, faire un acte de foi et dire, Seigneur, moi, je veux la paix. Redonne-moi la paix. Est-ce que Dieu peut vous la donner, la paix? Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui prouve que Dieu donne la paix? Il y en a un ou il y en a plusieurs? Est-ce que Jésus a dit avant de remonter au ciel, tout le monde allait le renier, tout le monde allait l'abandonner, un allait se suicider parce qu'il l'avait renié, parce qu'il l'avait vendu, l'autre le renie, enfin tout. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je vous donne ma paix. Il n'y a que Jésus pour faire quelque chose pareil. Je vous donne ma paix. Combien de chrétiens n'ont pas la paix? Ils l'ont eu, ils l'ont eu. Ils se la sont faites voler. Que c'est terrible lorsque le Seigneur nous a donné certaines choses. Je vous dis, à Philadelphie, Dieu dit, mais veille afin que personne ne prenne ta couronne. Comme quoi, même si on maintient la position spirituelle, si on garde la parole, l'ennemi, il peut s'infiltrer et nous voler. Je pense à cette histoire parce qu'elle est extraordinaire. Dans le livre de Samuel, le dernier chapitre, vous le lirez, le dernier chapitre de 1 Samuel, vous savez, David part à la guerre avec ses hommes, et puis il y a une situation où on ne veut pas parce qu'il s'était avec les Philistins, c'était compliqué. David a vécu des moments difficiles. Et quand il arrive chez lui à sa ville à Ziklag, qu'est-ce qu'il voit? Tout est brûlé. Vous rendez compte? Il arrive chez lui, toute la ville est brûlée. Il n'y a plus personne. Les femmes, les enfants, tout le monde a été enlevé. Et tout le monde est dans une grande angoisse. Est-ce que ça peut arriver quand on ouvre les yeux sur ce que l'ennemi nous a volé? On peut être dans une grande angoisse. Mais David, lui, il connaissait Dieu. Il le connaissait. Ce n'était pas du cinéma. David connaissait le Seigneur. On le voit comment Dieu l'a restauré chaque fois qu'il a péché. Il a été vraiment restauré. Et il a consulté Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les poursuivre? Et Dieu dit, oui, poursuis-les. Et il s'est levé et les a poursuivis. Et il est dit qu'il a tout ramené. Et vous pouvez dire... Est-ce que c'est pas ça que Dieu veut? Dieu est capable de nous éprouver. Dieu est capable de nous faire perdre plusieurs choses. Mes frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Et quand Jésus pose la question par le biais de l'apôtre Paul, qu'est-ce que vous direz à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que vous direz de cette exhortation? Mes frères et sœurs, si le Seigneur Dieu a donné Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver de l'enfer éternel, à combien plus forte raison il nous donnera toutes choses? Et nous devrions véritablement être ces gens qui importunent le Seigneur dans le sens le plus correct et biblique du mot. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, peut-être que c'est la même parole que Dieu a donnée à David. Eh bien, poursuis-les. Poursuis. Attache-toi. Il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai. Tout ce que dit Monsieur Gauss, c'est vrai. Tout ce que dit la Bible, c'est vrai. Mais ils ne le font pas. Et le diable les promène, les balade comme de véritables marionnettes, alors que nous avons un Dieu qui est capable de nous donner. Vous le croyez vraiment que Dieu est capable de vous donner? Vous le croyez vraiment que Dieu est tout puissant? Regardez l'apôtre Paul qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il n'arrête pas de dire? Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Ce que les apôtres n'ont jamais dit, qui ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il ne le dit pas plusieurs fois. J'ai reçu par révélation. J'ai reçu. Et le résultat, c'est qu'il a écrit tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu. Et comme il a reçu, il a pu nous le donner. Et ce soir, si nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, c'est parce qu'un homme a reçu. Je me doute que David, que l'apôtre Paul passait beaucoup de temps à genoux devant Dieu. Est-ce que ça valait la peine? Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui donne. Qu'est-ce que j'ai reçu ces derniers temps, depuis le 1er janvier? Qu'est-ce que j'ai reçu? Peut-être que j'ai rien reçu. Que je me suis fait croire que j'avais reçu parce que j'étais d'accord avec les prédications. Mais c'est bien d'être d'accord avec les prédications. Mais je pense que Judas était d'accord avec toutes les prédications de Jésus. Vous croyez que Judas était d'accord avec les prédications? Oui, il était d'accord. Croyez-moi. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai saisi? C'est Asaph qui fait un psaume extraordinaire, le psaume 73, et qui réfléchit et qui est en vrac, mais complètement en vrac, jusqu'au jour où il rentre dans le sanctuaire et il dit, mais tu m'as saisi la main droite, je suis toujours avec toi, tu me conduiras par ton conseil, tu me conduiras dans la gloire. Lisez le psaume 23 et vous allez voir d'un homme qui était tous les jours en train de diriger la chorale dans l'église, que c'est pas parce qu'on dirige une chorale qu'on est en communion avec Dieu. Lui, il était jaloux parce qu'il ne comprenait pas, les méchants étaient plus prospères que lui, des inconvertis qui gagnent plus d'argent que moi, alors ça, ce n'est pas normal. C'est ce qui s'est passé. Il était en colère contre Dieu parce qu'il y avait des méchants qui étaient prospères. Oui ou non? Et ça, ça n'y a pas plu. Et il a commencé à nourrir de l'amertume, comme on l'a chanté, quand mon cœur était plein d'amertume. C'est terrible quand on commence à être en amertume, parce qu'on n'a pas compris que Dieu est souverain. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vais recevoir ce soir? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je vais dire à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai reçu? Vous savez, moi je me souviens, parce que ça a été une épreuve, pendant 3 ans à Tahiti, j'ai vraiment souffert. Mais j'ai appris une chose. J'ai appris une chose, à force de lire le livre de Joseph, parce que moi ça me convenait bien, qu'il avait pris des tartes par ses frères, etc. Moi ça me convenait bien. Et j'ai appris une chose, que c'est pas parce que Dieu ne parle pas, qu'il n'agit pas. Mais ça vraiment je l'ai compris. Que même si Dieu ne dit rien, il agit. Mais vraiment, s'il m'a fallu 3 ans d'épreuve, bon, je suis pas long à la détente, vous allez me dire, c'est vrai. Mais j'ai compris que même si Dieu ne vous parle pas, écoutez-moi bien, Dieu n'a rien dit à Joseph pendant 13 ans. Et pourtant, vous savez d'une manière explicite combien Dieu agissait dans la vie de ce jeune homme. Et lui, il était dans l'intégrité, il est resté droit. Quand il était en prison parce qu'il avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar, il a dit « c'est à Dieu qu'appartiennent les explications ». Que Dieu nous donne des Joseph, que Dieu nous donne des hommes comme David qui chaque fois qu'ils ont commis une erreur sont capables de dire « oui, je me repens, qu'est-ce que je dois faire Seigneur ?» Peut-être c'est la parole que vous avez besoin d'entendre, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as placé ici, dans cette église, et je sens que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce soir. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu l'a placé ici, c'est pour apprendre et pour servir le Seigneur. Il y a trop de gens qui tournent, qui courent à droite, à gauche. Mes frères et sœurs, Dieu vous a placé ici, et vous devriez dire « Seigneur, maintenant je vais recevoir. Je veux donner, mais avant de donner, parce que vous savez, un vase, quand il est plein, il déborde. Comment il déborde? Tout seul. Oui ou non? Est-ce qu'il y a besoin de forcer pour qu'un vase qui est plein déborde? Non. Il faut qu'il continue à recevoir. Et si je ne donne pas comme je devrais donner, eh bien Seigneur, on va réparer le vase et on va s'attaquer à cette affaire, parce que moi quand même, ça m'intéresse que Dieu donne à mon cœur ce que je désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Vous le croyez, ça? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu est capable de s'occuper de nos désirs. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand Dieu nous demande d'écouter, quand Dieu nous demande de prendre, venez à moi, recevez mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug. Dieu n'apprête pas de nous demander de prendre. Comme je l'ai dit au début, il y a des mouvements où on accentue sur les œuvres, donc on presse les gens comme des citrons, il faut donner, il faut faire ci, il faut faire là. C'est des mouvements qui, je le comprends, accentuent sur le social, sur le travail, mais ce n'est pas vrai. Le problème, c'est qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que je vais d'abord recevoir? Qu'est-ce que Dieu me demande de prendre? Vous aurez des tribulations, mais qu'est-ce qu'il dit? Ben c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Vous aurez des tribulations, mais ben tant pis. C'est comme ça qu'il dit Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais comment faire pour prendre courage? Mais vous croyez que quelqu'un qui se tient devant Dieu, Seigneur, je me tiens devant ta parole, je vais lire. Je vais lire un psaume ou deux. Ou en tous les cas, je lirai avec mon cœur. Écoutez-moi, si Dieu ne vous donne pas du courage, c'est qu'il y a un problème. Prenez courage. Prenez mon joug. Prenez et mangez. Mais c'est pour la Sainte-Seine. Vous croyez que c'est que pour la Sainte-Seine? Prenez et mangez. Prenez et buvez. Vous croyez que c'est que pour le dimanche matin? Vous ne croyez pas que c'est aussi quand je me tiens devant Dieu, je vais manger? Qu'est-ce qu'il dit encore? Mais prenez toutes les armes. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dieu donne. Il faut savoir ce que Dieu donne. Il faut le recevoir. Et quand Dieu dit, mais prenez courage, mais Seigneur, moi je vais prendre du courage. Vous savez, moi quand je suis arrivé ici, il y a 19 ans, l'église avait le bateau avait quelques fissures, vous vous rappelez? Et chaque fois que je me levais le matin, Chaque fois que je me mettais en prière, ce verset me revenait à l'esprit. J'étais à genoux dans mon bureau. Prenez courage. Et j'étais là. Mais vous savez, comme, si vous êtes au restaurant, vous commandez, demain matin, vous allez au restaurant, vous commandez 2 ou 3 pains au raisin, 2 ou 3 chocolatines. Qu'est-ce que vous pourriez commander encore? Un peu de pain avec de la confiture, et du beurre, un bon bol de chocolat. Et si vous le regardez, vous allez le prendre, non? Vous allez pas attendre que la chocolatiste vienne toute seule. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui regarde la chocolatine? Non, mais qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un, franchement, qui regarde la chocolatine et elle ne vient pas? Vous diriez, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais spirituellement, combien de gens ont devant eux des mets succulents et gras et ne sont pas capables de les prendre? Il y a un acte de foi. Le juste, il vivra par la foi. Le chrétien, même qui est guéri, le chrétien qui est sauvé, et le Seigneur Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Jésus aurait pu dire, mais ma puissance t'a guéri. Mais franchement, est-ce qu'il aurait pu le dire chaque fois? Je t'ai guéri, c'est moi le Fils de Dieu qui t'ai guéri, ma puissance t'a guéri, je suis le Dieu Saint et je te guéris. Non? C'est extraordinaire. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Mes frères et sœurs, il y a un acte de foi à faire. Et si nous voulons que Dieu accomplisse les désirs, parce qu'il en parle, ce serait grave que je le mette à la trappe. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Fais de l'Éternel tes délices. Écoute. Mais écoute! Écoute vraiment. Ne lise. Il y a plein de gens qui lisent la Bible. Oh, je lis tous les jours un chapitre. Ce matin, j'ai encore reçu sur un mail, voilà comment lire la Bible à 1 an. Comment lire la Bible, 2 chapitres dans l'Ancien Testament, 1 chapitre du Nouveau Testament. Mais mes frères et sœurs, franchement, c'est ridicule. Je m'excuse de dire ça, mais quand quelqu'un a soif, vous n'avez pas besoin de lui dire, va dans le frigo et va chercher à boire. Écoutez-moi, quand quelqu'un il a soif, il boit. Quand quelqu'un il a faim, il mange. Oui ou non? Et quand on a soif de Dieu, on lit la Bible, s'il faut commencer à avoir des méthodes, c'est comme si on disait, si ta femme, il te faut l'aimer, écoute, mets ton portable là, et toutes les 3 heures, envoie-lui un texto pour dire que tu l'aimes. Le portable sonnera, t'oublieras pas. Ah, oula, ça sonne. Chérie, je t'aime. À midi, à 3 heures, à 6 heures, vous croyez que ça va faire de vous un meilleur mari? Mais non, quelqu'un qui aime sa femme, il le lui prouve, n'est-ce pas? Une femme qui aime son mari, elle le prouve. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, donnez, et il vous sera donné. Vous voulez que Dieu vous donne? Eh bien, il faut savoir ces choses. Il faut les prendre au sérieux. Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que nous dirons à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous le croyez, le Seigneur? Il y a quelqu'un qui le croit, le Seigneur, ce soir? Il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, à l'égard de ces choses, mais moi, je peux que m'incliner. Je peux que tomber dans l'admiration. Il n'était pas obligé, le Seigneur. Est-ce qu'il était obligé de nous dire, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur... Sérieusement, est-ce que Dieu était obligé de nous le dire? Non, il aurait pu dire, mais ils vont le découvrir tout seul. Non, il l'a dit. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Vous ne croyez pas qu'on peut dire, Seigneur, merci. Il y a plein de versets, plein de promesses, elles pourraient ne pas être écrites. Pourquoi il les a écrites, le Seigneur? Parce qu'il nous aime. On va fermer les yeux, vraiment. Et s'il y a quelqu'un qui dit, mais Seigneur, c'était pour moi ce soir. Je suis en train de me faire voler ma couronne. Je suis en train de perdre mon salut. Je suis en train de me vautrer dans la désobéissance. Je suis là dans ta maison, mais en même temps, je suis dans le monde. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais répondre à mon Seigneur? En tous les cas, mes frères et sœurs, Dieu regarde à votre cœur. Et si vous lui dites, je me remets en question, Seigneur, je te demande pardon. Oui, je vais faire de ta présence mes délices. Je ne vais pas lire la Bible parce qu'il faut lire la Bible. Je ne vais pas prier parce qu'il faut prier. Mais j'ai besoin d'écouter ce que tu as à me dire. Mes frères et sœurs, personne, lorsqu'il se trouvera devant Dieu, pourra dire, pourquoi tu ne m'as pas dit, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas expliqué? Pourquoi tu ne m'as pas... Mes frères et sœurs, on est inexcusables. On a tous la Sainte Bible dans notre langue, en français. On est inexcusables. On n'a qu'une faveur, c'est apprendre ce que Dieu veut nous donner. Prions-le simplement, simplement. Et mes frères et sœurs, Dieu nous aidera. Il ne peut pas ne pas nous aider, c'est pas possible si on lui demande. Éternel, oui, nous l'avons chanté, nous n'avons que toi dans le ciel, sur la terre. Et même si tu nous as bénis matériellement, si tu nous as donné maintes et maintes faveurs, si tu nous as donné des repas chaque jour depuis notre naissance, etc., si tu nous as bénis tant et tant de fois, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous croyons, oui, que les pauvres en esprit reçoivent le royaume des cieux. Et nous te demandons, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons entendu sans apprendre, toutes les fois où nous avons écouté sans écouter vraiment. Nous savons, oui, que nous avons la vie éternelle. Nous qui t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, nous savons que la vie éternelle sera notre partage. Mais ici-bas, Seigneur, nous voulons faire de ta présence nos délices. Et nous, toi qui nous as donné rendez-vous ce soir, nous, certains de nos enfants, nous te prions qu'ils soient marqués par ta parole. Et je te prie pour cette personne, Seigneur, qui est là dans son esprit de fuite, fais-lui grâce ce soir. Fais grâce à cette personne qui a envie de partir de ton royaume. Fais-lui grâce afin qu'elle reste et qu'elle ne perde pas sa couronne. Seigneur, tu vois cette personne qui a besoin de réaliser que tu l'as amené ici pour parler à son cœur. Fais-lui grâce, Seigneur. Tu fais grâce. Et comme David a tout retrouvé, je sais que tu en feras de même pour tous ceux qui t'invoquent. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, et que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur Jésus. Amen.